Que s'est-il donc passé? Il y a bien des énigmes dans l'Évangile, et celle de ce matin n'est pas des moindres. Que s'est-il donc passé? Nous avons bien entendu, au début de notre page d'Évangile, tous lui rendaient témoignage. Et voilà qu'arrivé à la fin de cette même page, nous entendons « Tous devinrent furieux ». Pourquoi ce passage de l'enthousiasme à la haine? Il s'agit sans doute d'un grand malentendu, comme souvent, entre Jésus et ses interlocuteurs. Dressons un peu le tableau. Jésus n'a pas encore tout à fait commencé son ministère public. Il a été baptisé, il a été tenté. On sait qu'il est passé par Capharnaüm, où il a déjà accompli quelques guérisons, mais il n'a pas encore commencé son ministère de prédication. Et voilà qu'il arrive à Nazareth, chez lui, en terrain connu. Nous l'avons entendu la semaine dernière, il est entré dans la synagogue, a demandé à lire la parole de Dieu comme il est de coutume. Il a lu un passage du prophète Isaïe où il est écrit « L'Esprit de Dieu repose sur moi, car il m'a consacré par l'onction. » Voilà, et je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la libération aux captifs, etc., etc. Tout s'est bien passé. Et nous l'entendons, tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et pourtant, voilà que tous deviennent furieux. Il s'est produit quelque chose à Nazareth, dans la propre ville de Jésus, qui fait que déjà, celui-ci n'a pas commencé son ministère public que l'horizon de la croix est déjà présent. Jésus, lui, vient à Nazareth pour inaugurer sa triple mission, j'ai envie de dire. Tout d'abord, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il le fait, nous l'avons dit, en reprenant les termes mêmes d'Isaïe. Simplement, il transforme un tout petit peu les paroles, puisque si vous allez voir, dans le texte même de l'Ancien Testament, eh bien, il est question de la colère de Dieu. Il est question d'imprécation contre le peuple. Or, tout cela, Jésus l'a omis. Le premier petit indice qui dissonne aux yeux des habitants de Nazareth, en tout cas de ceux qui sont dans la synagogue, Jésus ne cite pas tout à fait textuellement la parole de Dieu, mais il n'empêche, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, à tous ceux qui sont dans le besoin, à tous ceux qui sont dans une attente, et l'attente était forte, nous dit-on, au temps de Jésus. Voilà la première mission du Christ, venir de la part du Père, manifester son amour, manifester son soutien à tous ceux qui sont petits, vulnérables, dans la détresse et qui ont besoin de Dieu pour vivre. Deuxième élément de la mission, et c'est peut-être là que les choses vont se gâter, Jésus se signale comme celui dont la bonne nouvelle va dépasser les frontières d'Israël. Et il y va de manière un peu provocante en disant qu'il n'est pas venu à Nazareth pour accomplir des miracles comme il a pu le faire à Capharnaüm. Et il y va fort en disant « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Et le voilà qui donne deux exemples. Celui d'Élie qui a permis à une pauvre veuve étrangère et à son fils de ne pas mourir de faim, et l'exemple d'Élisée qui a guéri un général ennemi, Naaman le Syrien. Oui, l'Évangile n'est pas fait pour être enfermé dans les petites frontières de nos communautés étroites. C'est déjà ce que semble dire Jésus. Enfin, la triple direction de sa mission, c'est l'aujourd'hui. En refermant le rouleau à la synagogue, il le dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre ». Donc non seulement en disant cela, il se signale comme le Messie, il dit qui il est l'envoyé du Père, celui qui est venu pour le salut de tous. Mais il dit également que l'Évangile est valable aujourd'hui. Et cet aujourd'hui n'a pas pris une ride. Oui, c'est bien aujourd'hui, chaque fois que nous nous rassemblons et que nous entendons proclamer la parole de Dieu, que cette parole s'accomplit parmi nous. Alors, à cette triple dimension de la mission de Jésus, à cette triple dimension, eh bien, s'oppose un triple malentendu de la part des gens de Nazareth. Tout d'abord, ils voient en Jésus celui qu'ils ont toujours connu. Mais oui, le petit gars du pays, vous savez bien, le fils de Joseph, le charpentier, on l'a vu courir sur nos places, on l'a vu, s'amuser avec nos enfants. Ah, il était bien gentil, bien poli, bien éduqué. Marie avait bien fait son travail de maman. Mais oui, c'est le fils de Joseph. Et le voilà qui se met à parler comme un prophète. Puisqu'il cite Isaïe, il nous parle d'Élie et d'Élisée. Alors oui, ce fils de Joseph, c'est peut-être un prophète. Mais un prophète, comme on l'a dit, qui ne ressemble pas complètement à tous les prophètes. Il n'est pas comme Isaïe, comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme les petits prophètes, qui ont toujours les gros yeux à faire, hein, qui ont toujours une parole un peu vigoureuse à nous dire de la part du Seigneur. Il n'est même pas comme Jean-Baptiste, hein, celui qui nous demandait de nous convertir. Non, il vient annoncer purement et simplement la bonne nouvelle. Il n'y a que des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Drôle de prophète. Alors, oui, il y a peut-être un malentendu qui s'installe. Le fils de Joseph est peut-être un prophète, mais un prophète d'un genre un peu nouveau. Et puis, quand il dit « cette parole s'accomplit aujourd'hui », alors que la parole à laquelle il fait allusion est une parole qui parle du Messie, eh bien, nous ne la comprenons pas, cette parole. S'il est le Messie, il est celui qui va nous libérer de toutes nos oppressions, et en premier qui va nous libérer des Romains. Or, Jésus, le fils de Joseph, nous libérait des Romains. Et oui, et voilà que Jésus en rajoute une couche. Et comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il vient annoncer que finalement, la libération, elle viendra, mais pas pour eux. Et donc, les voilà qui deviennent furieux. Finalement, ils restent avec l'image du petit gars du pays. Et voilà que le petit gars leur fait plus ou moins la leçon et leur dit qu'il n'y aura pas pour eux de miracle. Alors, tous deviennent furieux. Et l'on assiste à un triple dénouement. On avait parlé du témoignage rendu, mais il semble bien loin, puisque tous veulent s'en prendre à Jésus pour le tuer. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, que se profile la passion. Et puis, il y a un dernier dénouement un peu étrange. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Ce verset m'a toujours étonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons peut-être ici affaire à une annonce de la résurrection. Malgré l'hostilité, malgré la mort qui rôde, eh bien, Jésus va son chemin. Et son chemin, c'est celui qui mène vers le Père. Alors, aujourd'hui, qu'en est-il pour nous de cette page de l'Évangile ? Premièrement, disons-nous que la mission de Jésus n'est pas terminée. La bonne nouvelle a toujours à être annoncée aux pauvres. Et nous, qui ce matin l'entendons, nous avons la charge d'aller la transmettre à tous ceux qui, autour de nous, vivent des situations de souffrance, à tous les pauvres de notre société. Cette bonne nouvelle, elle excède encore les frontières de l'Église. Comme nous y invite très souvent le pape François, laissons le Christ sortir. Laissons le Christ sortir de nos sacristies. Laissons le Christ sortir de nos églises. Laissons le Christ aller aux périphéries existentielles, c'est-à-dire là où tous ceux qui n'ont pas le droit de citer sont relégués. Enfin, la mission de Jésus n'est pas terminée parce que l'Évangile est toujours neuf. L'Évangile nous pousse toujours à sortir de nos petites conceptions étriquées de la tradition avec un grand T. Oui, la tradition est un trésor, mais un trésor qui demande à être partagé, qui demande à être mis en valeur d'une manière ou d'une autre, donc qui demande toujours à être actualisé. C'est toujours en permettant à cette tradition de pénétrer dans la culture de notre temps que nous sommes les plus fidèles à cette tradition. Alors oui, bien souvent, comme les habitants de Nazareth, nous courons des risques. Le risque de vouloir coller au Jésus de l'histoire pour mieux le comprendre. Oui, nous voulons connaître au mieux ce Jésus qui est venu parmi nous il y a 2000 ans. Nous voulons tout connaître de son humanité, comme les gens de Nazareth qui connaissent par cœur ce jeune homme, au risque de laisser de côté sa divinité. Nous courons le risque de façonner un Jésus à notre convenance, pas trop subversif, non, un Jésus qui ne nous bouscule pas trop. Oui, un Jésus finalement à notre image, convenable. Nous courons également le risque de passer à côté de ce que les autres peuvent nous révéler de Jésus. D'une certaine manière, la bonne nouvelle a avancé grâce à la veuve de Sarepta, grâce à Naaman le Syrien. Et peut-être que des gens qui ne sont pas dans notre assemblée, qui ont entendu parler de Jésus, peuvent avoir des choses à nous dire sur lui, à nous révéler sur lui. Je vous donne un petit exemple. J'ai la chance de participer à l'assemblée synodale. Et lors de nos deux dernières réunions, dans le sous-forum auquel j'appartiens, j'ai été très frappé par le témoignage d'un homme qu'on pourrait qualifier de pauvre de notre société. Quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, quelqu'un qui n'a peut-être pas lu toute la Bible, mais qui a à cœur de mieux connaître et de mieux aimer Jésus. Alors ça vous paraît peut-être naïf et anecdotique, mais j'ai été touché par son témoignage de foi et ce qu'il a pu me révéler de Jésus. Oui, nous n'en aurons jamais fini avec la nouveauté de Jésus. Et c'est peut-être cela qui est le plus important dans cette page d'Évangile. Si la révélation est close, si nous n'avons plus rien à apprendre du Père qui nous a tout dit en Jésus, en revanche, nous n'en aurons jamais fini d'expliquer cette révélation, c'est-à-dire de la déplier, c'est-à-dire de la faire entendre dans tout ce qu'elle a à nous dire. Comme le dirait un grand théologien suisse, Hans-Urs von Balthasar, la vérité est symphonique. Oui, chacun, nous avons un chemin vers la vérité qui permet aux autres d'éclairer leur chemin vers la vérité. La foi est une, mais polyphonique, comme Dieu est un en trois personnes. Nous n'en aurons jamais fini d'épuiser la vérité de Jésus, car il est Dieu, il est amour, et nous l'avons entendu, l'amour ne passera jamais. Quand nous verrons le Seigneur face à face, c'en sera fini de la foi. Nous le verrons, oui. En sa présence, nous serons en sa présence. Nous le verrons face à face. L'espérance, plus besoin. Il sera là. Mais l'amour, nous n'en aurons jamais fini. Et remarquons-le, quand saint Paul écrit son fameux hymne à la charité, il l'écrit au présent. Alors demandons au Seigneur cette grâce, eh bien, d'avoir un cœur toujours neuf, toujours disposé à accueillir sa nouveauté. Oui, Seigneur Jésus, que nous n'en ayons jamais fini avec toi, que nous n'en ayons jamais fini avec ton amour. Amen.